Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot.
Jérôme Sillon.
Avec Oleda Cherchour, avec Maxime Chanot, avec vous au 32-16 et sur le WhatsApp de l'After également. Vous continuez à nous écrire. Nicolas d'ailleurs qui vient de nous dire Lyon a fait comme Paris et confie son équipe à un coach avec une vision. On voit dès ce soir que ça semble être un bon choix si on le laisse bosser. Lyon qui a donc gagné à Toulouse 2-0. On parle de Lens désormais qui a battu Auxerre 5-2. C'était en fin de soirée, en fin d'après-midi plutôt, début de soirée, avec un doublé de Florian Thauvin sur pénalty, un but d'Ivano, un but d'Abdoulhamid et un but de Ganyu Namazo sur penalty. Et si pour Auxerre ont marqué durant cette rencontre qui a été marquée par des choix également importants, des décisions arbitrales importantes. Walid, la victoire de Lens avec la sauce Dino Topmöller, c'est ce que tu voulais nous dire.
Oui, globalement mérité, avec encore une fois beaucoup d'ambition dans le jeu, avec aussi des largesses un peu défensives, hein, on l'a vu même à 11 contre 10, parce que son jeu énergivore où il va faire du man-to-man en allant chercher très très haut, ça implique aussi des espaces, et heureusement qu'il a des défenseurs très très mobiles, avec un Ganyu qui a encore été monstrueux, qui a mis un but d'attaquant, mais qui a aussi colmaté pas mal de brèches, et voilà, on continue de découvrir le logiciel Topmöller, où ils ont été plutôt matures et défensifs contre le Paris Saint-Germain, parce qu'il le fallait face à la meilleure équipe d'Europe, et surtout en infériorité numérique. Là, ils ont été en supériorité numérique et ils gagnent ce match-là, même si bien évidemment que dans l'analyse c'est compliqué quand même, Jérôme, d'être dithyrambique sur Lens, parce qu'il y a quand même deux décisions pour moi qui sont très très litigieuses et qui sont très très sévères pour Auxerre. Pour moi, le pénalty, il n'y a jamais péno. Le premier. Ah, pour moi le premier.
Ouais, c'est vrai que Ganyu pousse Ganyu, le pied fort, c'est qu'il se plaint pas en fait.
Oui. Ganyu il pousse la main forte de pied forte, mais en tout cas pour moi, je vois pas pourquoi. En fait, si on siffle ces pénaux là, en fait, je comprends plus. Et puis même le carton rouge, je le trouve sévère. Et c'est quand même deux décisions qui vont dans le sens de Lens et qui tuent le résultat final. Et pourtant, enfin, je me suis embrouillé avec Daniel hier là-dessus, où moi je le trouvais très très sévère sur El Mourabet et sur le penalty de Guéladoué. Là, pour le coup, ça s'y prête un peu plus, je trouve. Sur le match.
Je suis d'accord avec toi là.
Max, avant de t'écouter, on va d'abord prendre Julien, supporter d'Auxerre, parce que justement, il a envie de parler de l'arbitrage de ce soir au Stade Bollaert. Salut Julien.
Bonsoir à tous.
Salut Julien.
Salut Julien, t'étais dans le parcage, toi t'étais à Bollaert.
Ah oui, voilà, je viens de rentrer chez moi à l'instant, j'étais en parcage.
D'accord. Raconte-nous alors, qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé pendant le match?
Bah écoutez, moi le pénalty, de là où on est en parcage, et on voit bien que Gagnon il tient pied fort, et en tenant pied fort, c'est là que la balle elle vient lui taper sur la main. Ouais. Pour moi, il n'y a pas, en plus il va même pas vérifier.
Ouais, c'est dingue.
Ouais, encore, il aurait pu aller voir. Franchement, il aurait pu aller voir.
Moi, pour moi, s'il va voir, il n'y a pas pénalty.
C'est possible.
Et puis moi, je vous le dis, les gars, j'ai plein de copains, vous savez comment ça se passe, nous, les petits amateurs. J'ai des copains qui sont pour le PSG, l'OM, tout ce que vous voulez. Ils m'ont envoyé des messages, ils m'ont envoyé des trucs en me disant « Ouais, vous êtes fait carotte, les gars. »
Ouais, après, je l'ai dit un peu plus tôt, c'est aussi la réaction de Piedfort. Le mec, il se fait pousser. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un nouveau et qu'il a pas osé aller parler à l'arbitre? On l'a vu, hein, sur deux, trois actions. D'ailleurs, il était peut-être trop poli. Mais quand t'as une poussette comme ça dans le dos, eh ben, il faut aussi le montrer. Il faut aller se plaindre. Et le fait qu'il ait pas, en tout cas, montré son mécontentement, finalement, ça laisse
la possibilité d'aller.
Non, mais c'est une grande différence, Wally. Tu sais, quand t'as 4-5 joueurs qui viennent mettre la pression à l'arbitre, c'est un peu différent.
Ouais, ok, d'accord, mais d'abord, à la base, il y a une erreur. À la base, il y a quand même un canouvard.
Bien sûr.
Je suis désolé, sur un match aussi important, enfin, c'est une G1 pour Auxerre, ils font un début de match qui n'est pas déconnant, qui est. Voilà, il y a un moment, tu peux pas être pénalisé de cette manière sur une double décision.
Déjà
que Lens, c'est global. Après, globalement, c'est une équipe supérieure. Ils ont été deuxième l'année dernière, ils ont de la qualité. Quand ça joue à toi, à moi, en une touche, là, il y a une action avec Sima, Ivanovic et Florian Thauvin, exceptionnel. Il y a des occasions, il y a bien évidemment du volume, mais tu peux pas analyser la rencontre en te disant purée, il y a deux décisions contraires à Auxerre qui font complètement basculer la rencontre ce soir.
Jérôme, on repart sur des
débats interminables autour de l'arbitrage qui vont nous tuer les débriefs. C'était le cas hier soir, c'est encore là ce ce soir. Ça, c'est, franchement, ouais. Entre les pour, les contre, les décisions, on a dit l'arbitrage à la Coupe du Monde était intéressant. Là, on va repartir sur ça. Tu te dis, tu regardes le match, tu dis, mais c'est quand même pas possible, quoi. C'est-à-dire qu'à quel moment ça va s'arrêter, quoi.
Sans oublier aussi le temps de réflexion pour aller siffler les pénalties. Hein. T'avais presque 3 à 4 minutes. Hein. C'était beaucoup trop long. Les mecs qui sont dans la régie, qui sont dans leur camion, je sais pas, il n'y a pas une possibilité d'appeler l'arbitre plus rapidement que ça.
Même le pénalty d'Auxerre, et pour moi, il n'est pas péno.
Les gars, moi, c'est ce que je pensais. Je pensais qu'il nous a donné une compensation, en fait, le pénalty de Namazo.
Pour moi, même le pénalty sur...
Cuisance
pour moi, il tape le tibia.
Les deux sont pénalty.
Les deux premières décisions, pour moi, sont pas
bonnes. Par contre, là où moi, j'avais envie de mettre en avant, je parlerai un petit peu du RC Lens un peu plus tard, mais la Géoxer, quand même, a montré un bon visage. Alors, il y a cette arrivée de Will Steele que moi, j'avais un petit peu critiqué, que j'avais... connoté comme surcoté par rapport à ce qu'il avait fait dans le football moderne. Je vais lui laisser le bénéfice du doute sur cette saison, mais là j'ai trouvé intéressant, notamment quand ils ont pris le carton rouge, ils étaient à 10 contre 11 à l'extérieur contre Lens, et il y a eu ces 15 minutes où clairement entre la 30 et la 45e minute, les Auxerrois étaient plus proches d'aller marquer un but que l'inverse. Donc j'ai beaucoup aimé un petit peu le style Will Steele, très ambitieux, très audacieux, avec beaucoup de courses vers l'avant. Honnêtement, j'attends de voir ce que ça va donner. Je te dis, j'étais pas un grand fan de la mise à l'écart de Pélissier, qui pour moi avait fait le maximum avec l'effectif qu'il avait, mais je dois bien avouer qu'honnêtement, même si évidemment il y a défaite ce soir contre le Racing Club de Lens, qui est l'une des meilleures équipes de Ligue 1, ils m'ont convaincu, ces Auxerrois.
Julien, bouge pas, on va faire un petit détour par l'Espagne, parce que ça bouge entre l'Espagnol et le Real, Edgar Grollo.
Ouais, le Real va aller chercher les 3 points, le but de Carlos Espi, il a signé exactement pour ça, pour marquer dans ce genre de match complètement fermé. 2-1 pour le Real Madrid face à l'Espagnol, le but dans le temps additionnel. C'est une action qui est partie de la droite avec Yann Diomandé, avec Kylian Mbappé qui avait provoqué dans la surface de réparation, et derrière Espi qui après un ballon contré a pu terminer à 2 mètres de la cage. 2-1 pour le Real Madrid face à l'Espagnol, il va rester 3 minutes dans le temps additionnel.
Très beau but, parce qu'il a le calme, la sérénité dans la surface de réparation.
Exactement.
Il fait la petite pause qu'il faut. Non, vraiment, but très très important, et qui va lui donner une crédibilité dans le vestiaire, dans un vestiaire de fou furieux quand même, avec des grands champions, c'est important.
Et un gros boulot de Kylian Mbappé. On revient à cette victoire, de cette défaite d'Auxerre à Lens, parce qu'on parlait des Auxerrois, défaite 5-2. Avant de donner la parole à Julien, tu voulais ajouter un truc?
Non, je voulais parler de Lens
aussi. Après sur Auxerre, très rapidement, c'est bien beau, c'est les prestations comme l'année dernière avec Pélissier, et maintenant il va falloir être une équipe de méchants, quoi.
Il y a un moment, le mercato n'est pas terminé.
Non, mais ce soir, il n'y a rien à dire, parce qu'il y a les décisions arbitrales, et globalement, ça a été cohérent dans le jeu, parce que c'est une équipe qui techniquement connaît son texte, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais par rapport à l'année dernière, on le répétait débrief après débrief, ils ont quand même de la qualité dans cette équipe. Il va falloir que ce soit une équipe méchante devant le but, et beaucoup plus dangereuse.
Julien, d'accord avec Walid ?
Sûr, et vous voyez les gars, le deuxième but, franchement, le deuxième but qu'on met, il est propre quand même.
Malgré
qu'on ait dit, le deuxième but, il est propre. Bon, on part en contre, ok, pas de souci. Après, moi, je vous le dis honnêtement, je pense qu'il va nous falloir un tueur devant quand même.
Ah ouais, c'est alors, Labo Lascari n'a pas joué parce qu'il est prêté par le Racing Club de Lens. C'est lui, en principe, ton avant-centre.
Ouais, ou Théo Bert, tu vois. Donc bon, excuse-moi, mais bon, voilà, ça casse pas des briques non plus, quoi.
Et derrière bon, aussi, Namazo, Namazo, Namazo plus solide,
je trouve ça bien, par contre.
Parce que t'en prends 5 ce soir, mais Jovanovic, il est un peu imprécis. T'as des grosses occasions, notamment en première mi-temps, où tu peux aussi prendre un peu plus de buts. Donc il va falloir être plus solide.
Julien, merci d'être venu au 32-16. On va parler du Racing Club de Lens. Donc victoire 5-2. Alors il s'est passé pas mal de choses. Avant d'accueillir Daniel, je voulais vous faire écouter d'abord Dino Topmeier, l'entraîneur, parce que il y a une séquence qui a été intéressante sur le deuxième pénalty de Florian Thauvin. Il avait la possibilité effectivement de donner le ballon à Houghton-Edouard et il a refusé de le faire. Il a expliqué au micro de Ligue 1 Plus que fallait qu'il soit un peu plus méchant cette saison et que peut-être qu'il donnera le pénalty plus tard dans la saison. Mais en tout cas là, il voulait vraiment l'avoir pour lui et marquer ses deux premiers buts. Avant de te faire réagir, Max, on écoute ce qu'en a dit Dino Topmeier en conférence de presse.
Au début, je pense que c'est toujours une bonne signe si tout le monde veut prendre une certaine responsabilité sur le terrain. Hodson, c'est un attaquant. Il voulait aussi lancer sa saison avec un but. Mais par contre, on a aussi une clair rôle. Si Flo Thauvin, il est sur le terrain, c'est lui qui tire le penalty. Et à la fin, c'est lui qui décide s'il laisse tirer un autre joueur ou pas. Je pense que ça n'a pas trop aidé lui dans le moment, mais heureusement, le gardien aussi, il bougeait un peu trop tôt. Il avait cette deuxième possibilité pour marquer.
Max. Ouais, parce qu'il faut bien réexpliquer que Thauvin loupe donc son, enfin, il marque son premier penalty sur le deuxième penalty, donc il loupe la première tentative qui est finalement retirée parce que le gardien est parti un peu trop tôt. Et c'est vrai que lorsqu'il marque le deuxième, il y a cette espèce de jeu de regard avec Hudson-Edouard. On a senti qu'il y avait un peu de, voilà, il y a un petit peu un imbroglio entre les deux. Et d'ailleurs, bon, j'ai pas pu lire sur ses lèvres, mais on a compris qu'il, je dis pas qu'il allait l'insulter, mais qu'il était pas content de la manière dont s'est positionné Hudson-Edouard. Bon, on a vu qu'ils sont très potes. À la fin, ils se seraient dans les bras, c'était réglé. Mais c'est vrai que quand t'es sur le terrain, t'es dans ton match, t'as envie de marquer tes buts, que l'attaquant Hudson-Edouard a envie lui aussi de lancer sa saison, ça peut être compréhensible. Il faudrait pas que ça devienne un problème dans le vestiaire. On en a vu avant, mais je pense pas que c'est le cas avec Lens.
On continue à parler dans un instant, mais d'abord, Le Mans, Antoine Rabillard, le joueur du Mans FC est en direct sur RMC dans l'After avec Clément Brossard.
Exactement, Jérôme, bonsoir à tous. On est avec Antoine Rabillard. Le match le plus spectaculaire de la soirée, finalement, Antoine, deux buts partout, avec donc ses premiers buts marqués en Ligue 1 pour le Mans FC, et une belle atmosphère aussi, 20 000 personnes. Voilà, ce retour en Ligue 1, ça fait 16 ans que le club l'attendait. Comment tu l'as vécu?
Ouais, forcément, ça fait plaisir, parce que bon, on savait l'attente qu'il y avait pour les supporters, pour le club, pour la ville. Ça faisait 16 ans que le club avait pas évolué à ce niveau-là, donc on était content de pouvoir offrir un beau spectacle devant notre public. Maintenant, forcément, on est un peu déçus du résultat. Je pense qu'en menant 2-1, on avait fait le plus dur, et prendre un but sur coup de pied arrêté, c'est toujours un peu chiant dans ces conditions. Mais bon, voilà, je pense qu'on a beaucoup donné d'énergie, on a montré un beau visage, et le dernier quart d'heure a été très difficile pour nous, et ramener un point, c'est un bon début, et ça va nous permettre de lancer notre saison.
Qu'est-ce qui faisait partie des rares joueurs mansois à avoir découvert la Ligue 1 avant cette année, hein. Ils étaient 8 sur 11 à découvrir la Ligue 1 sur le 11 de départ.
Antoine, juste, est-ce qu'il y avait aussi la volonté, peut-être la crainte justement de montrer que vous aviez le niveau de la Ligue 1?
Ben, c'est vrai que sur le premier quart d'heure, on a eu beaucoup de mal sur nos ressorties de balles. On avait travaillé un plan de jeu toute la semaine, et on s'est très vite enfermé, où on a pris des zones de pression. On n'arrivait pas forcément à mettre notre jeu en place. Et je pense que ce premier but qu'on cède, ça nous a réveillé un peu, et au fur et à mesure du match, voilà, on a pris la mesure des choses, et on a été capable de revenir au score juste avant la mi-temps, donc ça nous a fait du bien. Et puis voilà, maintenant faut continuer. Cette saison va être, chaque point va compter. Donc en tout cas, on va se battre nous jusqu'au bout pour prendre le plus de points possible.
Une question de Maxime Chano pour toi, Antoine.
Salut Antoine, félicitations pour ton premier match en Ligue 1 avec Le Mans. Alors toi qui as connu Le Mans depuis plusieurs saisons, t'as donc connu aussi la Ligue 2. Quelle est la grosse différence entre la Ligue 2 et la Ligue 1 là, après avoir joué ce premier match contre Brest?
Bah forcément, c'est beaucoup plus clinique. On l'a vu. Je pense sur le premier but, on fait un enchaînement de petites erreurs où je pense qu'on doit centrer en première intention, derrière on doit faire faute, derrière moi je peux parler au milieu de terrain, et puis voilà, sur un renversement face à face, c'est but, donc ça pardonne pas. Puis le rythme est forcément beaucoup plus élevé, la qualité technique, donc voilà, faut prendre la mesure de la chose, mais je suis persuadé qu'avec beaucoup de travail, l'équipe va se mettre au niveau très vite.
Merci beaucoup Antoine d'être venu dans l'After, et merci au Club du Mans pour sa disponibilité. Très bonne saison Antoine.
Merci à vous.
Et merci à Clément Brossard, évidemment, pour nous avoir permis de discuter avec Antoine Rabillard, donc le joueur du Mans, en direct dans l'After sur RMC, de partout entre Le Mans et Brest. Avant de reparler de Lens, c'est fini entre l'Espagnol et le Real Madrid, Edgar.
Et la victoire à la fin, la toute fin de ce match pour le Real Madrid. Victoire 2-1 finalement, avec l'ouverture du score de Jude Bellingham à la 9e. L'égalisation de Calatrava pour l'Espagnol à la 30e. Et donc ce but de Carlos Espi à la 90e minute, son tout premier sous le maillot du Real Madrid.
Bon, à tout à l'heure Edgar, on te reprend d'ici 25 minutes, 25 minutes pour débriefer ce qu'il s'est passé pour cette première du Real en Liga. On parlait du Racing Club de Lens. Daniel est avec nous. Salut Daniel.
Bonsoir messieurs, vous allez bien?
Salut Daniel.
Supporter des 100 et or, ça va Daniel?
Oui, ça va. Bah, victoire. Je suis d'accord avec le supporter auxerrois. Pour moi, j'aurais pas mis rouge. Jaune suffisait. Bon, après, il annule une action directe de but, mais enfin.
Il est un peu excentré quand même. Hein.
On a parlé de l'arbitrage, ça, Daniel.
En fait,
peut-être.
C'est nul.
Moi, j'aimerais plutôt qu'on parle de la façon de jouer de Lens, de ce début de saison qui est déjà réussi avec ses victoires dans le Trophée des Champions, une victoire 5-2. Enfin, vous marquez les esprits quand même là.
Je me suis régalé. Dommage, je me suis régalé. Ce que je trouve un peu dommage, c'est sur le deuxième but, justement, on a 11 contre 10, pardon, et on prend un deuxième but sur un contre, alors que normalement, t'as la supériorité pour garder garder une ligne défensive, on se fait un peu ouvrir bêtement. Et comme l'année dernière, où quand on avait le score en main, il y avait un peu de relâchement et on se faisait assez vite punir.
C'est peut-être ça le point négatif, non, de cette soirée, ouais, c'est-à-dire la défense.
C'est le point négatif. Ouais.
Parce que c'est vrai que là, on est sur un match de Ligue 1 contre une AG Auxerre qui est quand même pas un cador de Ligue 1. J'ose imaginer un petit peu cette défense là avec Sagnon, avec Gagnou qui a été énorme, avec un Noiroki qui vient d'arriver jouer en Champions League.
Comment tu l'appelles?
Noiroki.
Noiroki, tu l'appelles. Navroki.
Ouais. J'ai pas l'accent polonais.
Il va falloir que je fasse. Je vais faire la police de la prononciation dans l'after, les garçons.
Vous m'avez compris, en tout cas, vous savez. Numéro 3. Donc, ouais, non, je disais un peu plus tôt que c'est peut-être ça le point d'interrogation. Comment Lens va pouvoir, alors déjà, digérer le niveau de la Champions League avec ses trois défenseurs centraux. Et puis, il faut pas oublier qu'il va sûrement avoir aussi un turnover. Parce que, à l'instar de ce qu'a fait Luis Enrique avec le Paris Saint-Germain ou Fonseca avec Lyon, j'imagine que Topmöller va faire tourner ses défenseurs. Et t'es quand même vraiment limité dans la profondeur de banc en ce qui concerne tes défenseurs. T'as la blessure de Beidou qui va pas revenir avant octobre.
Il y a Grady aussi qui
revient quand même de loin avec une grosse blessure tibia péronée. T'as Aguilar, bon, qui était pas là, il me semble, parce qu'il y avait une histoire.
En fait, t'as Antonio et Sagnan qui sont quand même des gros prospects qui peuvent te faire du bien et qui seront les prochains Gagnou.
Mais qui sont en mesure de pouvoir tenir une saison.
On avait dit la même chose pour Gagnou l'année dernière. Le mec, il est monstrueux. Il fait encore un match dingue. Moi, globalement, je suis rassuré par le RC Lens. Déjà, je trouve qu'il y a des schémas de passe, il y a des circuits déjà bien établi. On a quand même vu, même si je trouve que c'est irrégulier dans le match, que c'est pas le cas sur des grosses séquences, mais dès que ça joue à une touche, deux touches avec beaucoup de mouvements, ça fait quand même mal aux yeux pour l'adversaire, hein. Vraiment, ça donne le tournis, hein. Il y a eu des séquences de jeu. Bon, tu parlais du tableau d'affichage. Sima n'est pas sur le tableau d'affichage, mais moi j'ai été subjugué par la performance du Sénégalais.
Moi
je vois Balogun, hein. Il va 10 000 à l'heure, il cale les ballons. Il fait une passe cachée sur le deuxième but pour Ivanovic, mais d'une très très grande classe. Vraiment, moi j'ai kiffé le match de Sima. Et quand tu te dis que Ivanovic peut jouer à ce poste-là, que Hudson-Edouard l'année dernière a mis ses buts à ce poste-là, tu te dis que, tu vois, toi tu parles du négatif avec l'aspect défensif.
Je pense qu'il manque un peu de
l'aspect
de
défensif. Mais tu as quand même des choses positives. Je pense qu'au milieu de terrain aussi, t'as pas vu Bulatovic et Aïdara titulaires, et t'as Cuisance et Titraoui qui ont fait leur match, même si bien évidemment qu'ils n'ont pas été à leur meilleur niveau pendant toute la rencontre, mais je trouve qu'il y a des... En fait, comme je le disais tout à l'heure, pour Lyon, tu sens encore que Lens a très bien bossé.
Bien sûr, tu le sens encore.
Sens encore qu'ils vont... Et puis en plus, t'as le discours de Leca dans l'équipe aujourd'hui en disant, mais nous les gars, si on fait 8e, c'est saison réussie, donc il n'y a même pas de pression.
Après, ils n'ont pas la pression populaire du public,
exactement. Donc c'est super, en fait, t'as un contexte sain. Ouais, demain, tu perds les matchs. Même si demain, t'as un Navroki ou un Antonio qui fait une erreur, c'est pas très très grave parce que t'es à Lens. Ouais. Et ça te permet, moi je pense, d'aller chercher de la sérénité footballistique. Et ce soir, encore une fois, sans avoir fait un énorme match abouti jusqu'au bout, mais quand ils piquent, en plus je trouve qu'il y a une maturité dans leur jeu où ils savent à quel moment faut aller marquer, quand il faut aller changer le cours du match. Et ça, c'est quand même très très important.
Et ça doit être un bon exemple pour tous les clubs de Ligue 1. On parlait de la synergie justement de la cellule de recrutement, des dirigeants en règle générale. Quand tu vois la manière dont ils travaillent depuis quelques années, depuis l'après-pouille, c'est exceptionnel ce que t'es en train de faire, Lens. J'avais mis en avant à la nomination de Topmöller, je trouvais que c'est intéressant. Et en fait, pire ça, je pars du côté de Crystal Palace, tu récupères Topmöller et en fait tu récupères un entraîneur qui joue de la même manière avec le même schéma tactique que Pierre Sage, donc ça te fait gagner du temps.
Cohérence.
Ça te permet d'avoir un Udol dans son meilleur poste, c'est-à-dire piston gauche. Ça te permet d'avoir un Abdoulhamid aussi piston droit, qui a fait quand même 6 très bons derniers mois au Racing Club de Lens. Donc en fait, rien que d'être parti chercher un entraîneur qui est déjà dans la continuité de ce qu'a fait Pierre Sage, c'est déjà un gain de temps. Et ça, c'est intelligent de la part du Racing Club de Lens. Walid a parlé des départs, des arrivées. Ta Cuisance qui est là, qui est un super joueur, alors qu'on se rappelle du Cuisance de l'Olympique de Marseille. C'est pas grave, les cas, il compte quand même dessus. Il a regardé ce qu'il a fait au Hertha Berlin, à Venise, et il va le récupérer derrière. Titraoui, qui a été aussi exceptionnel du côté de Charleroi. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses du côté du Racing Club de Lens. Même si, attention, j'ai juste un point d'interrogation, Walid, par rapport à Thorgan Hazard, qui est de retour au club. On l'oublie pas, il a été formé au Racing Club de Lens. Moi, je l'ai suivi. Je te cache pas qu'Anderlecht, sur sa dernière saison, il est cramé. J'attends de voir ce que ça va donner au Racing Club de Lens. Encore plus dans un niveau qui est supérieur que la première division.
Non,
européenne.
Tu parlais de la densité tout à l'heure.
En règle générale, le travail qu'a fait l'ECA et l'équipe dirigeante est juste
exceptionnel. Tu parlais de la densité, ok, hasard, moi j'ai pas suivi Anderlecht.
Faut qu'on fasse parler Daniel après.
Mais très, très rapidement, quand tu fais rentrer Skoras, Hudson-Edouard, Aïdara, Bulatovic, Skoras, moi j'aime beaucoup, je trouve qu'il met beaucoup d'intensité, c'est quand même pas mal.
Ouais.
C'est quand même pas mal.
Daniel, t'as vu, ils sont dithyrambiques sur ton club, du coup ils te laissent pas parler.
Ouais, je sais bien, mais en fait, l'ECA, il a raison, on est des supporters que les journalistes détestent parce qu'on fait la même phrase que les supporters, que les entraîneurs, c'est-à-dire on verra match après match. Au fait, le classement, on le verra à la fin et ça sera tout. Enfin, cette année, on joue avec des champions, c'est qu'on n'a pas un budget limité. Bon, je te cache pas, Walid, que j'aimerais bien qu'il lâche les oiseaux pour acheter un petit défenseur en plus.
Oui, ça
ferait du bien.
À la base, ils voulaient prendre Obispo,
ouais,
mais bon, ça s'est pas fait. Au final,
c'était dès le début du mercato que ça s'est pas fait.
Oui, et après, faut pas oublier que Udol, il peut jouer aussi dans la défense à 3. Hein.
Ouais, et puis Aguilar Udol, aussi.
Il apporte tellement offensivement.
Mmh. Ouais,
Aguilar peut jouer aussi. Bulatovic, là, a pu jouer aussi.
Ouais. Et puis après, dans les projets clubs, il y a un moment, il y a un truc, c'est comme pour le petit Mizian Mesloub, Antonio, Gagnou. Il y a aussi, quand en fait, tu ne vas pas chercher des mecs, c'est parce que tu veux aussi faire émerger ton centre de formation et qu'ils savent très très bien qu'il y a, même s'ils vont perdre des matchs en Ligue des Champions, même s'ils vont perdre des matchs en championnat à cause peut-être de cette jeunesse-là, eh ben ils vont gagner de l'argent et ils vont gagner du développement. Mais, et ça, quand tu parles avec les dirigeants, c'est quand même important parce que on l'a bien vu là au Paris Saint-Germain quand ils ont pris le petit Drô Fernandez et que finalement bah t'as des jeunes joueurs qui sont partis ailleurs. Eh ben quand tu bloques certains joueurs, bah derrière ton discours avec ton centre de formation n'est plus le même. Donc ça aussi il faut l'intégrer quand t'es supporter ou quand t'es observateur. Et c'est important pour le développement club. Là aujourd'hui Gagnou, parce qu'on l'a pas insisté là-dessus, le début de saison qu'il fait, ils l'ont prolongé là il y a deux semaines, là il prend 10 millions à chaque match le mec.
Attendons septembre quand il va être sélectionné avec l'équipe de France.
C'est le prochain défenseur qui part à 80 bâtons, Gagnou. Donc en fait et c'est parce que tu lui as fait confiance et que t'as pas été chercher un gros défenseur l'année dernière aussi, hein.
Daniel, merci d'être venu au 32-16. Juste un petit message d'Alicia sur le WhatsApp qui nous dit: je vous trouve très élogieux, trop élogieux avec les Lensois en défense, c'est pas fort. On a besoin d'un patron. Voilà, on en reparlera peut-être du Racing Club de Lens dans les prochains jours.
Sûrement, mais c'est un pari.